إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes arrivés au hadith numéro 19. Donc après il ne restera que deux hadiths Inch'Allah, pour terminer l'ouvrage, puisqu'il comporte l'étude de 21 hadiths. Al-hadithu al-tasi'u ashar, le hadith numéro 19. Ijtinabu al-mubiqat, de s'éloigner, de délaisser, être loin de l'mubiqat. C'est ce qui amène à la perdition. Ce sont des actions qui sont destructrices et qui font perdre la personne. Il est question ici de choses qui font partie des plus grands péchés. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: Ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Qalu ya Rasul Allah, wa ma hunna? Qala: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: éloignez-vous, méfiez-vous des sept destructrices. Les compagnons radiyallahu anhum ont dit: ô messager d'Allah, et quelles sont ces actions destructrices dont on se doit de s'en éloigner? Et il dit alayhi salatu wassalam: le polythéisme associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le premier point. La sorcellerie, deuxième point. De tuer l'âme, une vie qu'Allah a rendue sacrée, si ce n'est avec vérité, si ce n'est lorsque la personne, elle méritait cette sentence. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, de s'adonner à l'usure, les intérêts. Cinquièmement, de profiter des biens de l'orphelin. De prendre les biens de l'orphelin, l'argent de l'orphelin. Sixièmement, est de se détourner en pleine bataille, de tourner le dos à la communauté en pleine bataille, c'est-à-dire lorsqu'il y a la guerre et que le soldat, il est en plein dedans et il fuit la bataille. Ça fait partie aussi des sept points destructrices, sept points destructeurs. Et le septième point, c'est d'accuser les femmes chastes, croyantes et insouciantes. D'accuser quiconque, c'est grave. Mais là, ce point-là bien précis, une femme qui fait preuve de chasteté, insouciante, ça veut dire, rafila, ça veut dire que jamais ça ne lui a traversé l'esprit de commettre l'adultère ou la fornication. Elle n'a jamais pensé à cela. Et quelqu'un vient l'accuser de cela. Rawi al-hadith, le rapporteur du hadith, Abu Huraira, wa qad taqaddama tarjamatuhu fi sharh al-hadith al-hadi ashar. On a déjà parlé de ce compagnon lors de l'étude du hadith numéro 11. Al-mufradat, le vocabulaire. Al-ijtinab, al-ibti'ad. Donc souvent dans le vocabulaire, on nous donne des synonymes pour approcher le sens. Parfois, il y a des termes qui ne sont pas très employés, mais qui ont des synonymes qui sont connus, courants, hein, plus répandus. De s'éloigner. Al-mubiqat, al-muhlikat. C'est ce qui va détruire la personne, ce qui amène sa perte et sa destruction. Al-shirk, taqaddama bayanuhu fi sharhi al-hadith al-sadis. Concernant l'association, le polythéisme, on en a parlé dans l'étude, l'explication du hadith numéro 6. Al-sihr, la sorcellerie, la magie. عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان. Donc ce sont des formules prononcées. Ce sont aussi des nœuds qui sont faits avec des cordes, des ficelles. Ils font des nœuds sur lesquels ils soufflent et ils récitent des choses et qui ont pour action d'avoir un effet sur les cœurs et les corps des humains. Ça a un effet. Donc la sorcellerie est une chose qui existe. On va voir la gravité de cette action, mais ça existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il ne faut pas dire que c'est une invention. Une invention, c'est-à-dire que les gens inventent des choses qui n'existent pas. Non, la sorcellerie existe. Et la sorcellerie, elle a un effet. Bien sûr, tout cela selon la permission d'Allah, Azza wa Jal. Quoi que fasse une personne, il ne pourra avoir d'effet que si Allah en décide, subhanahu wa ta'ala. Si Allah en décide autrement, la personne n'aura rien. Mais ça existe. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, lui-même, il a déjà été ensorcelé. Alayhi salatu wa salam. Ça ne touchait pas à sa transmission du message divin, mais il a été aussi touché lorsque des personnes lui ont fait de la sorcellerie. Donc c'est une chose qui existe. On va le voir, Inch'Allah. Donc ce sont des choses qui sont récitées, des choses qui sont faites et qui ont un effet, un impact sur les cœurs et les corps. Fayamrad wa yaqtul. Ça rend la personne malade. Ça peut même tuer la personne. Ça peut lui l'amener à la mort. Et aussi, ça amène à séparer entre l'homme, le mari et son épouse. Parce que ce qui est le plus connu des personnes qui sont liées, c'est l'homme avec son épouse. Donc, ce sont des choses qui sont faites aussi pour séparer l'homme de son épouse. Bien sûr, si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne le veut pas, ça n'aura pas lieu. Al-riba fil lughati az-ziyadatu mutlaqan. Le terme al-riba, qu'on traduit par l'usure, l'intérêt, c'est l'augmentation. Dans la langue, le terme riba veut dire l'augmentation d'un point de vue global, général. Yuqal raba yarbu rabwan idha zada. Donc, on emploie ce verbe raba yarbu rabwan. D'où vient le mot riba dans la langue arabe? Lorsqu'une chose, elle a augmenté. Wa fi shar'i. Et dans la législation, en islam, dans la religion. Donc on a des mots. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le dernier prophète, le dernier messager, il est issu de la communauté arabe. Il parlait une langue arabe. Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que le dernier livre révélé, il sera dans une langue arabe claire. Donc les termes sont dans la langue arabe. Et parfois, dans la religion, donc on emploie des mots qui existent, bien sûr, dans la langue arabe, mais qui auront, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sens bien spécifique, par rapport au sens littéral du mot. par rapport au sens littéral du mot. Comme as-salah. As-salah, c'est comme ad-du'a. C'est une prière. Même en français, le terme prière, on l'emploie pour dire une invocation. Quelqu'un qui fait une prière, c'est quelqu'un qui invoque. D'accord ? Mais la salat, salat, dans notre législation musulmane, c'est une prière précise qui comporte des gestes et des paroles bien précis et qui comporte des conditions, des obligations, des piliers, ainsi de suite. Sinon, à la base, le mot salat est un mot connu dans la langue arabe. Mais avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va l'employer pour une chose bien précise. De même, le terme hajj, le terme zakat, et ainsi de suite. Ce sont des termes qui sont issus de la langue arabe. C'est pour cela que lorsque les savants enseignent, même le fiqh, lorsqu'ils ont des termes, ils donnent le sens littéral, puis le sens technique, religieux, voulu par ce mot-là. D'où l'importance de connaître. Puis, les savants plus tard, lorsqu'ils auront à mettre des règles pour préserver la religion et pour mieux l'expliquer aux générations, il y a des règles dont on en est obligé d'émettre que ceux d'avant n'avaient pas besoin ou n'employaient pas, comme par exemple les règles de la grammaire. Les sahabes, radiallahu anhum, avaient-ils des règles qu'ils apprenaient à leurs enfants de la grammaire? Je vous pose la question. Non. Les enfants, ils entendaient leurs parents parler, ils apprenaient. Ils parlaient correctement l'arabe, sans commettre d'erreur. Ils savaient quelle voyelle mettre par rapport à l'emplacement du mot dans la phrase, sans aucune difficulté. Quand le peuple arabe a été mélangé aux autres peuples, avec la venue de l'islam et la propagation de l'islam, c'est normal, et c'est même historique, que les populations, lorsqu'elles se mélangent, les langues originales, elles perdent de leur valeur et elles faiblissent. Donc à l'époque même des sahaba radiallahu anhum, certains ont demandé, il est rapporté que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a demandé à un homme qui s'appelle Abu al-Aswad al-Du'ali de commencer déjà à mettre des règles parce que les gens commençaient à faire des erreurs dans l'arabe. Donc on a commencé à faire des règles de grammaire que les gens apprennent pour pouvoir préserver la langue et bien la formuler et bien prononcer convenablement. De même, on a les études du hadith, les techniques du hadith, mustalah al-hadith. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Les sciences du Coran, les sciences du fiqh, et ainsi de suite. Donc, et dans une matière bien précise, il y a des mots, on leur veut un sens bien précis dans cette matière. Donc, les ulama donnent la définition. Lorsqu'on emploie ce mot-là, on entend par là telle et telle chose. Bien que le mot, il se peut qu'il ait un sens différent littéralement, à la base. Donc il faut connaître, le différencier entre le sens littéral et le sens technique. Et même des fois les époques. Un mot, on l'emploie peut-être aujourd'hui dans un sens, mais à une certaine époque, même dans un lieu différent, il est employé autrement. C'est d'où l'importance de savoir que veut dire la personne qui emploie ce mot. Et les ulama, dans les introductions de certains de leurs ouvrages, parfois, ils l'expliquent, ils l'exposent. Quand je dis telle chose, j'entends par là telle chose. Ça, c'est important. Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah, il a un livre qui parle un peu de ce sujet-là, qui s'appelle Al-Haqiqatu Shar'iyya, la réalité religieuse. Et d'où l'importance de savoir qu'un mot employé dans le Coran et la Sunna, quel sens ils avaient par rapport au sens qui est employé à une certaine époque par les gens. Et non pas lorsque eux ils lisent le Coran et la Sunna, ils vont expliquer, traduire le mot comme eux ils l'emploient et non pas comme Allah le veut et son prophète sallallahu alayhi wa sallam le veut. L'importance. طيب الربا في اللغة الزيادة مطلقا يقال ربا يربو ربوا إذا زاد وفي الشرع الزيادة على رأس المال من وجه خاص محرم. Et dans la religion, c'est de rajouter, d'augmenter le capital. L'argent de base que tu avais, d'une manière bien précise, qui est interdite. وَالْرِبَا الْمَعْرُوفِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الدَّائِنِ لِمَدِينِهِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلِ إِمَّا أَنْ تُعْطِي وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي. Et le riba, l'usure qui était connue à l'époque de la jahiliya, à l'époque pré-islamique, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était que lorsque une personne prêtait de l'argent à quelqu'un pour un délai bien précis, pour une date bien précise à rembourser, il lui disait, lorsqu'elle viendra la date butoir, soit tu me donnes ou alors tu augmentes. Tu devras augmenter, rajouter. El yatim, l'orphelin. Min al insan, pour les humains. Alladhi faqada abah, c'est celui qui a perdu son père. C'est un enfant qui a perdu son père. On appelle al yatim. Wa min al hayawan ma faqada ummahu. Et pour les animaux, c'est le petit qui a perdu sa mère. والتولي يوم الزحف الفرار والهرب حال قتال العدو. Comme on a dit, hein, c'est le fait de se sauver en pleine bataille face à l'ennemi. Quelqu'un qui tourne le dos et qui se sauve alors qu'ils sont en pleine bataille. قذف المحصنات رمي العفيفات بالزنا. C'est d'accuser des femmes chastes d'avoir commis l'adultère ou la fornication. El rafilat, ces femmes qui sont insouciantes. El lati, lam takhtur al fahishatu ala balihin li taharati qulubihin. Tellement que ces femmes, elles ont un cœur pur, jamais ça n'a traversé leur esprit de penser de commettre l'adultère ou la fornication. Fahunna sahiyat an munkar. Elles en sont insouciantes du mal et des péchés. Ça ne traverse même pas leur esprit. Elles n'y pensent même pas. Elles n'y pensent même pas. Quelqu'un pourrait même interpréter leur langage ou leur geste alors qu'elles, elles n'ont jamais pensé à cela. Elle est très loin de cela. Et la personne, elle vient pour l'accuser de commettre cela, de commettre ce grand péché. Al-ma'na al-ijmali, le sens global. Yuhadhiru al-rasul sallallahu alayhi wa sallam ummatahu min al-wuku'i fi al-dhunub al-mubiqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit, mais en garde la communauté, sa communauté, de tomber dans les péchés destructeurs, dans les péchés qui mènent à la perdition. وهي المرضية المهلكة وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة. Et chacune de ces actions, de ces grands péchés, l'une seulement d'entre elles, elle amène la personne à la perdition, et à la destruction. أولها وأعظمها, la première d'entre elles est la plus grave et la plus dangereuse. أولها وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله, c'est le polythéisme, d'associer à Allah Azza wa Jal. Ça doit être clair normalement pour la communauté. Et lorsqu'on lit le Coran, on médite le Coran, et on étudie la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on étudie le prêche des prophètes, on voit bien que le plus grand bien, la première obligation, c'est le monothéisme. Et le plus grand péché, le plus grand danger, c'est le polythéisme. De donner à Allah des associés. Qui met l'accent sur ces points-là, Ce sont les gens qui suivent la sunna convenablement. Ce sont les gens qui suivent les pieux prédécesseurs de la meilleure manière. Il y en a, tu les entends, mais je ne sais pas c'est qui est sur la vérité. Mais tu n'as pas ouvert les yeux. Tu n'as pas vraiment cherché. Si tu priais ton Seigneur convenablement, en l'implorant de te guider vers le droit chemin, et Allah tabaraka wa ta'ala sait la réalité de ton cœur et de ta sincérité, tu serais guidé vers le droit chemin. Mais si tu réellement et véritablement tu ne cherches pas à suivre la vérité, mais plutôt tu te forces à faire croire à ta conscience que c'est telle voie qui est la vérité ou telle personne qui est sur la vérité, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi parce que tu ne cherches pas la vérité. Donc, les soufis, ça se voit bien qu'ils ne sont pas dans le vrai. Depuis quand ils s'attardent sur le monothéisme, ils s'efforcent de faire comprendre aux gens que le shirk, c'est une action bien. Ils veulent que les gens invoquent les saints. Ils veulent emmener les gens vers les tombeaux et les mausolées. Ils veulent faire de leurs maîtres, leurs élites, des associés à Allah ou des personnes qui ont les aspects d'un prophète. Subhanallah. Mais celui à qui Allah a mis un voile, nul ne pourra l'enlever ce voile. Et celui qu'Allah l'a délaissé dans les ténèbres, nul ne pourra lui ramener la lumière. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais la réalité, elle est là. Les frères musulmans, leur priorité, c'est la politique. Ce n'est pas le monothéisme, c'est la politique. Le polythéisme, ce n'est pas le plus grand danger. Le plus grand danger, c'est entre guillemets les injustices commises par le gouvernant envers les gens. Mais l'injustice envers le Créateur, ce n'est pas le grand problème. L'établir, ils ne veulent pas de la science. Ils veulent prêcher dans l'ignorance. Et ils, entre eux, ils disent qu'il n'y a pas de bien dans beaucoup de sciences. Et celui qui passe son temps dans la science, il sera jugé pour avoir délaissé des gens mourir dans le faux et le mauvais chemin. Depuis quand ils ont emmené eux les gens vers le vrai chemin? Ils font quitter les gens en général des péchés pour les emmener dans un chemin pire encore, qui est un chemin rempli d'innovation, si ce n'est de polythéisme ou d'autre chose. Jama'at al-Takfir, les mouvements extrémistes qui taxent les musulmans de mécréance, quel que soit leur nom. Al-Khawarij, c'est un terme qui les englobe. Et à l'intérieur, vous savez les noms qu'ils ont. Boko Haram, Daesh, Qaïda, et ainsi de suite. À toute époque, ils ont un nom. Eux, leur priorité, c'est de faire sortir les musulmans de l'islam. Ce n'est pas le monothéisme. Non, on a une idée, tu l'adoptes, tu es musulman, tu ne l'adoptes pas, tu n'es pas musulman. Voilà. Ils font des règles, ils les imposent aux gens. Tu y crois, tu es des leurs, tu n'y crois pas, tu n'es plus des leurs. Et ils ont des points distinctifs. Ça parle sur les gouvernants, à tort ou à raison, mais de parler sur les gouvernants, ce n'est pas une éducation prophétique. Le prophète nous a enseigné tout le contraire. Ça appelle au soulèvement, ça appelle à appliquer les sentences. N'importe qui parmi les gens se doit d'appliquer les sentences. C'est pour cela qu'eux, ils se considèrent être aptes à pouvoir appliquer les sentences. Wal'iyadhu billah. Donc faites attention. Quelqu'un qui ouvre les yeux, il voit très bien. Déjà, le chemin, il est là. Qui sont dans ce chemin? Et c'est pour cela que la vérité ne se connaît pas par les hommes. Connais la vérité, tu seras celui qui l'a. Je sais que la priorité, c'est le tawhid. Je sais que la priorité, c'est de combattre le polythéisme. Là, je regarde qui vraiment appelle le tawhid et combat le polythéisme. La priorité, c'est d'appliquer la sunna et de la pratiquer et de combattre toute forme d'innovation. Regardons, c'est qui vraiment qui le fait. La priorité, c'est que les paroles d'Allah et de son prophète, aucune parole ne peut venir dessus. Pas comme les innovateurs, parmi eux, tellement qu'ils arrivent à des extrêmes et tellement qu'ils veulent faire triompher leur idéologie, ils ont dit, si on avait la capacité de prendre le Coran et d'enlever tous les passages qui nous gênent. Oui, il y en a qui ont dit ça. S'ils en avaient eu la capacité, ils auraient enlevé. Comme les gens d'avant l'ont fait avec les livres sacrés. Ils effaçaient et ils rajoutaient comme bon leur semblait. Même devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des juifs qui devaient être condamnés par la lapidation pour l'acte de fornication commis, et ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de juger. Et le rabbin vient avec la Torah ou des passages de la Torah, une partie de la Torah. Et il commence à réciter. Mais comment il récite? Il récite en murmurant. Vous savez, l'arrestation rapide. On en a pour dire, bon, c'est pas ça qui nous intéresse, je vais arriver au passage. Mais en murmurant, il mange les mots. Pour pas que les gens ils entendent ce qui est écrit. Subhanallah. Et son doigt ou sa main, elle est sur un passage. Pour personne ne le voit. Et là, lorsqu'il enlève, on lui demande d'enlever sa main, on voit qu'il est marqué la lapidation dans la Torah. Et il a voulu cacher cette vérité qui était dans le livre sacré. Ce sont des actions connues même des gens d'avant. Ce n'est pas nouveau. Là, il n'y a pas longtemps, là, en Tchétchénie, dans la capitale Grozny, ils ont fait un grand rassemblement de tous les innovateurs. Ils ont appelé leurs chouyours là de tous les pays pour dire, définir c'est qui le sunna. Et là, le résumé de tout ça, la finalité de tout ça, le sunna, ce sont ceux qui ont la croyance maturidiyya, ceux qui ont la croyance ash'ariyya, ce sont les soufis. D'accord? Et qui sont ceux qui ont quitté l'islam? Ce sont les wahhabites. Les wahhabiyya. Les salafiyyin. Wal'iyadu billah. Ça, ça a été. Ils ont réuni beaucoup de monde. Mais c'est un bien en soi. C'est bien. Réunissez-vous. On voit très bien qui est qui. Là, les visages, on les voit. Subhanallah. Et il y en a beaucoup. Ça a été le moment de voir leur réalité. Dans un mal, il en découle aussi un bien. Des gens qu'on ne savait pas trop, eh bien là, on les voit très bien. Et chacun ne marche qu'avec son semblable et son ami. Voilà la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est que le terrorisme, il vient de chez les salafiyyin. C'est ce qu'on veut faire croire. Ce n'est pas qu'ici. Hein. Ici, là, on entend les gens dire, « Ah, mais les journalistes, ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas. » Non! Dans nos pays, déjà, c'est comme ça. Parce que vous connaissez, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Mais dans nos pays, on a des gens, bien avant qu'ici, ça parle comme ça. Ça parle déjà comme ça, subhanallah. Il y a ce problème-là déjà dans nos pays. Il y a des journalistes, des soi-disant penseurs, des soi-disant spécialistes, mais spécialistes de rien du tout en vérité. Mais bon, voilà. Donc, on les ramène et tout ça, et ça parle. On en a dans les pays musulmans. Wal'iyadu billah. Qu'Allah les guide. Donc, il y en a. Et maintenant, on veut faire passer ceux que jamais personne, aucun terroriste n'est sorti de leur rang, ce sont les soufis. Donc, en fin de compte, les soufis, ce sont vraiment les protecteurs de la religion. On a fait une erreur de les avoir oubliés. Il faut leur redonner vie. Alors qu'en réalité, les soufis n'avaient plus vraiment de place forte. Grâce à qui? Aux ulama. Aux savants qu'il y avait dans ce siècle passé. Ces grands ulama dans les pays musulmans qui ont fait un énorme travail pour nettoyer, purifier la croyance islamique de tout ce qui l'entachait. Et ils ont prouvé que que le soufisme n'a été qu'un frein pour la communauté musulmane et un mal pour la communauté musulmane. Donc, et maintenant, ils essayent, voilà. Bien sûr que dans le terrorisme, il y a peut-être des mains derrière qui profitent de la situation, il y a peut-être des infiltrés, et il y a, Allahu A'lam, je ne suis pas un spécialiste dans ces domaines-là, mais on n'est pas dupe. Mais de l'autre côté, on a aussi des débiles mentaux dans nos rangs, des fois. On a des débiles mentaux. Hein? Oui, parce que ce sont des gens qui auraient dû être dans des asiles psychiatriques. Il y en a. On les entend parler, quand on les voit réfléchir, c'est leur place, c'est plutôt dans un hôpital. Wal'iyadhu billah. Quand quelqu'un, il veut voir que du sang, il veut que ça explose partout, il veut la mort, la destruction, c'est ça qu'il recherche. Mais depuis quand un prophète a appelé à cela? Depuis quand les grands imams de l'islam ont appelé à cela? Ça n'existe pas. Ils appellent à la véritable vie. Ils veulent que les gens vivent mieux. Ils veulent que les gens soient sauvés du feu de l'enfer. Ils ont de la clémence envers les gens. Donc, l'importance, le point là qu'on vient de voir, premier point, le tawhid, le plus grand danger, le shirk. Le sunna, c'est qu'un seul groupe. Ce sont ceux qui sont sur le même chemin que le prophète et ses compagnons. On les appelle Ahl al-Sunnah wal Jama'a. On les appelle Ahl al-Sunnah. On les appelle Ahl al-Hadith. On les appelle Ahl al-Athar. On les appelle Itba' al-Salaf. On les appelle Al-Salafiyoun. On les appelle Ansar al-Sunnah. Quel que soit leur nom, mais c'est la définition est la même. Ce sont des gens qui suivent convenablement dans tous les domaines le prophète et les pieux prédécesseurs. C'est tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné deux aqidas différentes, trois aqidas différentes. Ça n'existe pas. Subhanallah. Ça n'existe pas. Ce sont des inventions. Et la sha'ira, Abu al-Hassan al-Ash'ari est innocent d'eux. Parce que lui-même, il s'est repenti de la croyance, des erreurs qu'il avait dans sa croyance. Et il a écrit des ouvrages avant sa mort. Connu. Mais les gens, lorsqu'ils ne veulent pas suivre la vérité, tu ne peux rien pour eux. طيب أولها وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدا ولا يقبل معه من الصالحات شيء. L'action, cette action qui est le polythéisme, dont Allah jamais ne pardonnera. Et jamais Allah n'acceptera avec la présence de ce polythéisme une quelconque bonne action. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Faman dhabaha. أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاه أو ناداه أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. Donc celui qui viendrait à immoler, égorger une bête pour autre que Allah. Les termes qu'il va employer après, je ne sais pas exactement si quelqu'un a pu voir, non? Halaqa ou qassara, qu'est-ce qu'il veut par là? Non? Ou qui fait un serment pour autre que Allah, ou qui s'incline ou se prosterne pour autre que Allah, ou qui jure par une créature qu'il magnifie, qu'il élève à un degré, à un stade divin, ou qu'il demande des besoins à un mort, comme le fait de lui demander l'enfant, ou de l'invoquer, ou de l'interpeller, ou de chercher secours et aide auprès de lui dans une question, sur une chose, il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui peut y répondre et donner, celui-là aura commis du polythéisme et a donné à Allah un égal et un semblable. Et le shirk, le polythéisme, il est de deux sortes. Il y a celui qui est caché et celui qui est apparent. Famine al-khafi, un ta'mala ria'an. Dans le polythéisme caché, il y a comme l'ostentation. Tu fais une action par ostentation. Ou tu n'accomplis pas une action pour les gens aussi. Parce que les gens, il y en a, ils font pour les gens. Et il y en a qui ne font pas pour les gens. Et les deux actions, elles sont mauvaises. ومن الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين رحمك الله من جهلة المسلمين وأشباه الجهلة من الطواف بالقبور ودعوة أصحابها في المهمات والشدائد والعكوف عليها والتمسك بها لطلب البركات. Et parmi le polythéisme apparent, il y a ce qu'on voit comme action commise par certains face au tombeau des prophètes et des pieux et des saints, action commise par les ignorants, des musulmans ou des semblables aux ignorants. Ce sont des gens qui sont considérés comme des gens de science, alors qu'en réalité, ils ressemblent plus à des ignorants. Lorsqu'ils tournent autour des tombes et les invoquent dans leurs besoins et dans les moments difficiles, et ils stationnent auprès de ces tombes pour y chercher des bénédictions. Et ça, c'est que des actions qui sont répandues dans la communauté. Dans les pays musulmans, il y en a beaucoup, par millions de gens. Bien sûr, beaucoup d'entre eux sont induits en erreur. Ils sont induits en erreur par ces soi-disant chouyours ou savants du mal et du faux qui font cela pour égarer les gens, pour gagner un vil prix de ce bas monde, pour s'enrichir sur le dos des gens. Wal'iyadu billah. Et ce qui est le plus répandu, c'est qu'on retrouve ces actions chez les sectes soufis qui sont les grands protecteurs de ces actions de polythéisme. La deuxième grand péché destructeur, la sorcellerie. وفي السحر جمع بين الكفر والإدرار بالناس. Et dans la sorcellerie sont assemblés, sont réunis la mécréance. C'est un acte de mécréance, la sorcellerie. Et la nuisance envers les gens. Donc la personne, elle commet de la mécréance et au même moment, elle fait du mal aux gens. لِمَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّ وَالْجَهَلَ مِنْ قُدْرَةِ السَّاحِرِ عَلَى مَا يُرِيدُ وَاسْتِطَاعَتُهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مُلْكِ اللَّهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. En plus, cette action, elle comporte aussi une mauvaise compréhension des gens de la masse. Parmi les ignorants qui pensent que le sorcier, il a des pouvoirs, il a la capacité d'avoir ce qu'il veut, il a la capacité de participer dans la gérance du royaume d'Allah, Azza wa Jal, sans qu'Allah lui en ait donné la permission. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dans le sens du verset, et ils ne peuvent nuire, faire du mal à quelqu'un si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه. Et les ulama, les savants de l'islam, sont unanimes sur l'interdiction formelle de s'adonner à la sorcellerie, de l'enseigner, de l'apprendre. Tout ceci est interdit. Et ça, ce sont des choses qui sont très, très répandues dans beaucoup de pays. Je parle déjà dans les pays musulmans. Et la gravité aussi, c'est lorsque ces sorciers sont considérés par les gens de la masse comme des savants, sont considérés comme des pieux, des vertueux, comme des gens du bien, alors qu'ils font partie des plus mauvaises personnes. Wal'iyadh billah. Au Maroc, on les appelle le frih. Hein? Les gens ils disent, je vais aller voir le frih. Le frih, ça vient de al-faqih. Al-faqih, c'est celui qui a le fiqh. Al-fiqh, c'est la compréhension de la religion, des textes religieux. Depuis quand il les a, celui-là? Mais on lui donne le nom de le frih. Il l'appelle aussi talib. Il dit, on va aller voir talib. Talib, c'est, à la base, c'est l'étudiant. C'est celui qui a étudié, qui a la religion. Tellement qu'ils sont ignorants, ils ne font même pas la distinction entre un véritable savant et un sorcier. En Mauritanie, en Afrique noire, au Mali, au Sénégal, ils les appellent marabouts. Alors que le terme marabout, à la base, c'est un terme qui était donné aux savants. Ça vient du mot arabe al-murabit. Al-murabit. Et il y a une dynastie qui a gouverné l'Espagne, le Maghreb, jusqu'au Sénégal, qui s'appelait Al-Murabitoun, qui ont fondé la ville de Rabat, Al-Ribat, la capitale du Maroc, et qui avait comme ville aussi Marrakech, qu'ils ont fondée, et qui était sur la bonne croyance, Aqidat Salaf, et qui viennent du sud, de la Mauritanie, pas loin du Sénégal, à la base. Donc, dans ces régions-là, le savant, dans le désert, il s'arrêtait à un endroit, il mettait sa tente et il stationnait là. Et les gens venaient de toute contrée pour étudier chez lui. Donc, il faisait comme un ribat, c'est comme si le gardien des frontières des musulmans. Donc, le terme est venu al-murabit. On l'appelle al-murabit. Et en français, c'est devenu marabout. Le terme marabout. Donc, dans ces pays-là, le terme marabout, parfois, certains l'emploient, même dans le bon sens, dit lui, c'est un marabout, c'est-à-dire, c'est l'imam, c'est le shir, c'est le savant. Mais ça s'est mélangé avec les sorciers. Ils se font aussi appeler les marabouts. Comme les gens, ils vont vers les gens de science lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont des questions. Les sorciers se sont infiltrés dedans. Et on sait tout le mal qu'ils ont fait. Wal'iyadhu billah. Comme dit Cheikh Mohammed Rabi' al-Madkhali, le grand-fils de Cheikh Rabi', hafidhahumullah, il a dit que plus de la moitié de la communauté musulmane est touchée de près ou de loin par la sorcellerie. Il a dit des pays, des états devraient s'unir pour combattre ce fléau. Ils se réunissent pour discuter de maladies contagieuses, de maladies dont on n'a pas le médicament, alors qu'il y a pire que cela, la sorcellerie. Il a dit plus de la moitié de la communauté, ils sont comme des infirmes, incapables de travailler ou de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont touchés par la sorcellerie. Tellement que c'est répandu. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. وقالوا إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا. Et ils ont dit, si dans ce qu'il dit, le sorcier, il y a une parole ou un acte dans lequel il y a de la mécréance, alors c'est une action de mécréance. وقال أحمالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين تعاطي السحر كفر يوجب القتل. L'imam Malik et l'imam Ahmed رحمهم الله et un bon nombre de compagnons radiyallahu anhum et bon nombre de tabi'in رحمهم الله, ils ont dit s'adonner à la sorcellerie et de la mécréance Et celui qui fait cela, sa sentence, c'est la peine de mort. La sentence du sorcier en islam, c'est la peine de mort. وقال آخرون يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه. Et d'autres ont dit, c'est de la perversité qu'il commet, mais il doit sa sentence, c'est aussi la peine de mort. ولا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام كما هو مذهب الشافعي. Et pour ceux-là qui disent que c'est de la perversité, même s'il est condamné à mort, mais on ne le jugera pas comme étant apostat. Alors que les premiers, la première opinion, c'est que sa condamnation, c'est une condamnation d'apostasie, d'avoir quitté l'islam par ces actions-là. Mais là, c'est sa sentence, mais ils disent qu'il ne quitte pas l'islam. Comme on retrouve cela dans le madhhab de Al-Shafi'i, rahimahullah. Illa idha qala ou fa'ala shay'an min hadha as-sihr yakfuru bih. Sauf si dans ce qu'il dit, dans sa pratique du sihr, de la sorcellerie, ou dans ce qu'il a fait, il devient mécréant par cette action-là. Kaman yad'i al-qudra ala taghyir khalqillah. Comme celui qui prétendrait qu'il peut changer la création d'Allah. Ou mudahat khalqihi, ou qu'il peut s'égaler à Allah dans sa création. Ou yaz'um annahu yadur wa yanfa' bi sihrihi, ou alors qu'il prétend qu'il peut amener un bien ou un mal par sa sorcellerie, que c'est lui qui peut faire cela. Kama huwa sha'nu as-sahara fi kulli zaman wa makan. Et ça, c'est la situation de tous les sorciers en toute époque et en tout lieu. Hein, ils prétendent, hein, et peut-être ça les amuse, je ne sais pas, mais les gens, ils pensent à d'eux que ce sont des gens qui ont des pouvoirs. Et vous entendez bien, vous lisez bien, si vous le voyez, ils disent que ce sont des pouvoirs, qu'ils ont hérité d'un parent, hein, dans les petits papiers, là, les... Hein, ouais, leur petite carte de visite. Ils n'ont pas appelé ça une carte de visite. Allah al-Musta'an. A'udhu billah. وأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل السحرة. Et le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, رضي الله عنه, lors de son califat, il a ordonné, il a donné ordre que soient tués les sorciers. Que leur sentence, c'est la peine de mort. وقتلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة. Et la mère des croyants, Hafsa anha, a demandé que soit appliquée la sentence sur une servante qu'elle avait, qui on a découvert qu'elle s'adonnait à la sorcellerie, qui était une sorcière. Même en Europe, hein, dans le Moyen-Âge, on faisait ce qu'ils appelaient la chasse aux sorcières. C'était connu. Bon, après, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient accusés à tort, Allahu a'lam. Mais il y avait la chasse aux sorcières. Ça, c'est les gens dans tous les pays, tout le monde a des problèmes avec les sorciers et les sorcières. C'est un problème. Ce sont des gens du mal. Et qui ne sont là que pour s'enrichir et faire du mal. Wa qatala Jundub ibn Abdillah sahiran kana yal'ab عند الوليد بن عقبة بقطع رأس الرجل ثم يدعوه فيأتي حيا. Et il est rapporté que Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu a tué un sorcier qui jouait auprès de l'Walid ibn Uqba. Il le prenait un homme, il lui coupait la tête, puis il l'invitait à nouveau et cet homme est revenu comme il était auparavant. Ce sont des sorciers, ils font croire des choses aux gens. À l'œil comme ça, tu vois des choses étranges, surnaturelles. Subhanallah. Et vous connaissez l'histoire de Pharaon avec les sorciers. Hein, les sorciers qui étaient complices de Pharaon. Mais lorsque Moussa alayhi salam va les confronter, Allah tabaraka wa ta'ala à ce moment va les guider à l'islam. Et ils seront punis par Pharaon pour l'avoir quitté. وَثَالِثُهَا Mais il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. De savoir que la sorcellerie existe et qu'elle a un effet, c'est une chose. Mais ce n'est pas, on n'étudie pas ça pour que les gens partent en ayant des peurs. La peur, tu l'as d'Allah, Azza wa Jal. La crainte, tu l'as d'Allah, Azza wa Jal. C'est comme les djinns. Les djinns, ce sont des créatures comme toi. Allah les a créés sous une forme. Nous, il nous a créés sous une forme. Allah, il a donné des choses spécifiques à eux. Il nous a donné des choses qui sont spécifiques à nous. Ils ont leur monde, on a le nôtre. Et ils ont des créatures mauvaises parmi eux. Ils ont des démons, comme chez les humains, il y a des démons. Mais les sorciers vont les chercher. Et un sorcier ne peut commettre sa sorcellerie qu'en quittant l'islam. Il commet du polythéisme, de la mécréance. Le diable, le démon, ne va venir lui venir en aide que s'il quitte sa foi et sa religion. Ça reste pas ensemble. Mais rien n'arrive sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Rien n'arrive sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Et parfois, quelqu'un peut être touché. Mais il n'a rien fait, lui. Il a subi. Et il patiente. Et à la fin, il se retrouve au paradis, tous les péchés pardonnés. Cette femme qui vient voir le prophète, sallam, et elle lui dit qu'elle est touchée. Invoque Allah pour qu'il me guérisse. Le prophète, sallam, lui a dit quoi? Soit tu patientes et tu auras le paradis, ou soit j'invoque Allah, il te l'enlève. Elle a dit, non, je vais patienter. Mais seulement, demande à Allah que lorsque je suis touché, au moment où elle a l'effet, qu'elle ne se dévoile pas. Parce qu'elle avait un problème à ce moment-là, sans le faire exprès, involontairement, hein, il y avait ces parties, ou des parties de son corps qui se dévoilaient. Donc elle a demandé que ceci ne lui arrive plus. Et il a invoqué Allah pour plus que ça ne lui arrive. Donc, le fait d'être malade ou d'être touché, pour un croyant, il n'y a rien qui ne touche si ce n'est un bien pour lui. Même une épine qui te pique, c'est un bien pour toi et ceci n'est donné qu'aux croyants. Donc quelqu'un peut vivre dans ce bas monde, entre guillemets, visuellement, il est bien, il est soi-disant dans un bonheur et dans l'au-delà, il sera dans un châtiment douloureux. Qu'Allah nous en préserve. Et quelqu'un, il a des problèmes, des soucis, mais tout ceci n'est qu'un nettoyage, une purification pour lui. Et Yom al-Qiyamah, il vient devant Allah Azza wa Jal, purifié de tout mal. Donc, personne ne sait, subhanallah. Mais c'est pour cela que même al-Ruqya, elle existe en islam, elle est légiférée. Mais les gens lui donnent, ils s'adonnent à cela d'une manière qui outrepasse les limites. Avant, il y avait les problèmes des charlatans qui faisaient Ruqya d'une manière non légiférée. Et ça a été combattu, alhamdoulilah. Puis, on se retrouve face à des gens qui disent, et Inch'Allah, ce qu'ils disent est vrai, qu'ils font la ruqya selon la sunna. Mais, ils en ont fait un métier. Ça y est, il ne peut plus travailler la personne. Pourquoi? Ça lui prend toute sa journée. Et ils arrivent, ils fondent des cliniques de ruqya, des bureaux de ruqya, avec une standardiste ou je ne sais qui. C'est quoi ça? Ça n'a jamais existé. Al-Ruqya, c'est de venir en aide à ton prochain. Il a besoin d'être aidé, tu viens l'aider par la Ruqya. Il t'a demandé de l'aide, tu vas l'aider. Il ne te l'a pas demandé, mais toi, tu le sais qu'il en a besoin, tu vas l'aider. C'est tout. Tu as le droit de demander une compensation. Mais ça s'arrête là. Pas que ça devient un tarif connu... 50 euros les 20 minutes, les 15 minutes, mais c'est quoi ça? La personne, elle s'enrichit en faisant la ruqya. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Depuis quand vous avez entendu qu'un sahabi, il gagne sa vie par ruqya? Alors qu'ils l'ont déjà faite la ruqya. Depuis quand? Depuis quand vous avez entendu qu'un imam ou un alim s'est distingué par la ruqya? Et il était connu pour la ruqya. Depuis quand? Lisez les biographies des ulama de toutes les époques. Depuis quand un alim? Comment ça se fait? Comment se fait-il que les ulama ne se distinguent pas par la ruqya? Il faut expliquer. Subhanallah. Et puis, la personne, elle croit que c'est un spécialiste de la ruqya. Depuis quand c'est une matière à étudier à part? Ça n'existe pas. On lit des hadiths, lorsqu'on tombe dessus, on les étudie, alhamdulillah. Et à la base, la personne, elle récite sur lui-même. Il n'y a pas besoin. Et éloigner les femmes des hommes, il y a des accidents. Un humain, ça reste un humain. Subhanallah. Il fait ruqya, il tombe dans zina à la fin. Il fait ruqya, il demande à la femme de divorcer de son mari. Que c'est ça le remède. Pour comme ça, après, elle pourra se marier avec lui. Il veut voir le visage de la femme, il veut toucher le corps de la femme. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Des accidents, il y en a plein. Arrêtez de croire qu'un humain n'est pas un humain. Un humain, c'est un humain. Subhanallah. Ah, mais je pensais pas que... Mais tu pensais pas quoi? Tu croyais faire face à qui? C'est un humain. Un humain, il a du sang qui circule en lui. Il a des pensées, bonnes ou mauvaises, qui lui traversent l'esprit. Il a des désirs, il a des envies, comme toi et comme toutes les personnes. Subhanallah. Vous croyez quoi? Faut arrêter. Il y a des accidents. Mais je ne pensais pas que... Arrêtez de dire cette phrase. Subhanallah. C'est pas je ne pensais pas que... J'applique. J'applique. La sœur, elle a un problème. Son mari, son père, son frère. Laissez la famille... Au sein de la famille, pas la peine de faire intervenir des gens de l'extérieur. Subhanallah. C'est pas la peine. Subhanallah. Ce manque de confiance, pour quelle raison? Subhanallah. Non, je veux que ce soit lui qui... Pourquoi tu ne récites pas pour ta propre fille, pour ta propre épouse? Et elle, elle te récite. Si jamais c'est toi qui en as besoin. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, faisait ses récitations. Il récitait... Les trois dernières sourates. Hein, il soufflait sur ses mains et il passait ses mains sur son corps. Lorsqu'il était malade, il ne pouvait pas le faire. C'est Aïcha qui lui faisait. Subhanallah. Subhanallah. Il faut arrêter. Et le problème, c'est que il y a des gens qui font ruqya. Lorsqu'ils viennent dans un endroit, tout le monde est malade. Et avant qu'ils viennent, il n'y avait personne qui se plaignait. Même quand il n'y a rien, ils regardent. Tu as besoin de ruqya. Maintenant, les gens, ils font des essais. Mais depuis quand il y a des essais dans le ruqya? Ouais, il faut que je regarde si j'ai pas un problème, il faut que je fasse un ruqya. Subhanallah! C'est agib, c'est étonnant, c'est l'ampleur que ça prend. Le hijama, c'est bien le hijama, ça fait partie de la sunna. Mais ça va pas plus loin. Maintenant, quelqu'un qui s'adonne à la hijama, les gens ils le prennent pour un imam, un savant de l'islam. Ils sont capables de lui poser je ne sais quelle question. Ah ouais, lui c'est un spécial du hijama. Hijama, à l'époque, c'était pas quelque chose, c'est pas louable hein, d'être quelqu'un connu pour la hijama. Subhanallah. C'est dur. On vit des époques un peu difficiles. Faut se réveiller un peu. Donc, les choses, elles sont là, elles existent, alhamdulillah, mais les gens leur donnent des fois une ampleur et ils font des choses autour qui ne sont pas convenables. On a besoin, alhamdoulilah, s'il y a des frères corrects, alhamdoulilah, qui connaissent les règles, alhamdoulilah, qui peuvent faire ruqya pour venir en aide. Il y a une petite compensation, c'est pas un problème, il a le droit de demander, mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Mais ça c'est... Vous avez entendu parler d'un qui s'appelle Abdel Raouf? Là, il est à Gennevilliers, je crois. Il fait le tour du monde. Dans les pays, il est invité. Maintenant, La bonne idée qu'ils ont trouvée, et puis ça fait gagner de l'argent très rapidement, c'est de faire des ruqya jama'i. Regrouper v'là le monde et de faire un ruqya. Voilà. Voilà. Et puis ça gagne de l'argent. C'est devenu un commerce. C'est devenu un commerce. Même le mot sunnah. Le mot sunnah. Des frères, alhamdoulilah, inshallah, ils sont dans la sunnah. Mais le mot sunnah, ils l'emploient partout. Sunna pour le commerce, sunna pour la ruqya, sunna pour la hijama, sunna pour le sport, sunna pour je ne sais quoi. Mais c'est quoi ça? Même le mot sunna, il est où le respect? Subhanallah, il est où le respect? même si la personne elle est bien intentionnée. Mais que, comment se fait-il que tu choisisses le mot sunna pour ton commerce, pour je ne sais quelle chose? Appelle, donne un nom à ton commerce, mais laisse les mots religieux tranquilles. Il a à craindre que des gens veulent employer des mots qui attirent et se servir du mot pour gagner de l'argent. Faire attention. Faire attention. Non, donnez un nom, voilà, un nom voilà, que, qui convient à la chose que vous voulez faire, mais pas à peine de mettre les mots. طيب وصلتنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين